Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour, c'est Lis des livres, votre émission littéraire sur CFM, présentée par Fred et Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Accompagnée de Joël de la librairie La Folle Avoine. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour.
Joël qui aujourd'hui nous parlera de Missia, une figure de légende de la vie artistique parisienne, mariée à Natançon, le fondateur de la Revue Blanche, dont il nous a déjà parlé dans l'épisode précédent pour ceux qui suivent. Donc nous allons vous présenter J, un titre très simple. Mais je précise que c'est un J barré, ça a toute son importance. J de Howard Jacobson chez Calman Levy et La mémoire en blanc d'Isabelle Colomba aux éditions Thierry Magnier. Et je vous dis tout de suite le nom du traducteur parce que c'est important. Bon, je fais des bruits de pages, mais les traducteurs, on ne va pas les laisser de côté. C'est traduit de l'anglais british, par Pascal Loubet. Donc J'y vais. Howard Jacobson n'en est pas à son coup d'essai, c'est un écrivain qui est assez connu en Grande-Bretagne. Il est aujourd'hui âgé de 73 ans, il est lauréat du Man Booker Prize du roman. Et en 2011, il n'y avait de cet auteur prolifique que l'Opération Finkler, qui a été traduit en français, qui a été édité en poche depuis, et deux autres qui sont venus s'ajouter, un qui s'appelle Kaluki Knight et La Grande Ménagerie, et ce dernier, le fameux J. Barré. Donc il était chroniqueur et journaliste, il est réputé pour être drôle et surtout marqué de judaïsme. Alors effectivement, c'est ce que vous risquez de rencontrer dans ce livre grave, qui parle de juifs, sans jamais prononcer le mot, et résolument ironique, même s'il paraît que Howard Jacobson peut l'être plus. Effectivement, j'ai testé, j'ai pris son précédent Opération Finkler, il est plus ironique que dans celui-là, qui est tout de même très mélancolique. Dans ce livre, il parle d'une dystopie où tout est normalisé. Et si le J est barré, c'est parce que c'est une lettre que le père du héros principal ne prononce qu'en mettant deux doigts devant sa bouche. J comme jazz, ou J comme juif. Juif, pas jazz, juif. Un mot qui ne sera jamais prononcé dans le livre. Alors, pour commencer, il y a un petit prologue. Il y a d'abord un loup qui fait un pari idiot avec une tarentule. Et au bout de la fable, il est obligé de se manger lui-même, ayant dévoré toutes ses proies. Premier message. Dans la suite, nous avons nos deux héros, Eileen, la femme dont les pieds sont vilains et dont le cœur palpite. Et puis il y a Kevern Cohen, dit Coco, un homme de rituel compulsif, tourneur et sculpteur sur bois, qui est porté sur l'introspection et qui va donc rencontrer Eileen. Enfin, pas exactement la rencontrer, on les pousse dans les bras l'un de l'autre. Ils vivent à Port-Reuben, dans un monde post-apocalyptique. Un événement assez peu défini, ce qui s'est produit, si ça s'est produit, a donné lieu à un remodelage général de la société. Il n'y a plus de réseaux sociaux, des utilifones, qui ressemblent fort à des téléphones portables, mais qui ne servent qu'à communiquer localement. Il n'y a plus de voyages, les traits d'esprit sont prohibés, alors que Kevern est un grand spécialiste du trait d'esprit, donc il est un peu frustré quand même. La littérature est réduite à des fictions insipides. Et là, je cite la connaissance de l'histoire comme toute autre forme de nostalgie excessive et découragée. On n'a pas le droit de posséder des objets anciens ou alors de pâles copies. Rien n'y est vraiment interdit, mais on n'encourage pas ce qui est dans la ligne de conduite choisie. Évidemment, comme tout bon état totalitaire, il y a un organisme de surveillance. Là, c'est l'humour à Monsieur Jacobson qui ressort, parce qu'il appelle ça l'autoto, la haute autorité officieuse de l'opinion publique, dont le slogan est « Souriez à votre voisin, chérissez votre conjoint, écoutez les balades, allez voir des comédies musicales, utilifonnez, conversez, expliquez, écoutez, acquiescez, mais surtout, excusez-vous. La conversation vaut mieux que le silence, la parole chantée surpasse les cris, mais rien n'est plus beau que l'amour. » Donc c'est un message très... Oui, très, très sucré, très barbe à papa. Seulement, dans ce livre, il y a des cauchemars qui sont écrits en italique, des extraits de lettres, des informations données par des rapports écrits, en particulier ceux de Denzdal Kroplik, qui est l'expert des lieux, l'historien et barbier itinérant qui est complètement fêlé, et ceux d'un professeur d'art visuel bénin qui font des rapports terrifiants sur l'état de cette société. Et le récit est construit de manière extrêmement morcelée et le lecteur reconstruit ça au fur et à mesure. Voilà. Parce que le récit se joue en permanence de la chronologie. Eileen et Kevern, les deux héros dont j'ai parlé au départ, sont donc activement observés par les deux personnages dont j'ai parlé tout à l'heure, au-dessus, là. Et ils n'arrivent pas, eux, à se défaire d'un passé qui est pourtant très flou, mais qui interfère en permanence dans leur présent. Parce que normalement, dans cette société, au cours d'une opération dite « Appelez-moi Ismaël », donc là, il y a une grosse référence à Moby Dick, tout le monde a pris des noms à consonance juive afin de former une unique et grande famille. Normalement, tout le monde est frère. Eileen se sent pourtant comme la baleine blanche que le capitaine Achab poursuit à jamais. Achab ou Akab. L'amnésie n'éradique pas la culpabilité, il faut aussi demander pardon. Et c'est en exigeant que tout le monde demande pardon sans précisant pourquoi que le concept de responsabilité peut être éradiqué et la culpabilité anesthésiée. Bon, donc c'est un livre pas facile.
Non, c'est vrai. C'est mais c'est une lecture intrigante. Moi, je dirais. Enfin, moi, je l'ai reçu comme ça. C'est vrai que c'est complexe et que ça peut laisser un petit peu perplexe parfois. Moi, je dois avouer que j'ai eu du mal à rentrer vraiment dans la lecture et à trouver le bon fil, suivre le fil conducteur, parce que la construction, elle est quand même très labyrinthique, je trouve. Ouais. Il faut du. Enfin, moi, il m'a fallu du temps un petit peu pour me repérer là-dedans. La syntaxe, elle est compliquée aussi. Il y a des intrigues, des sous-intrigues. Mais en fait, malgré tout ça, on se rend compte qu'on comprend assez vite de quoi il s'agit. Effectivement, ce qui s'est produit, si ça s'est produit, ça revient comme un leitmotiv tout au long du roman.
Il y a beaucoup de profondeur dans les dialogues. Le couple, en particulier Eileen et Kevern, moi, c'est ce qui m'a pas mal touchée. C'est un couple très qui va au bout des choses et qui essaye de trouver une vérité dans leur amour et qui essaye de suivre un chemin. Ils auront du mal d'ailleurs à rester ensemble. Et si ce livre moi, emballé personnellement, c'est parce qu'il interroge sur la capacité d'une société à ne pas reproduire le passé. Je trouvais que c'était très contemporain comme sujet. Et ce qu'il dit, c'est que c'est pas en le niant qu'on échappe à une violence innée. Donc il parle beaucoup du négationnisme. Et dans ce 21e siècle fictif qui est fait d'omission, l'idéal social, là, dans ce livre, c'est de supprimer la violence de masse pour une violence qui est plus anecdotique. Et celle qui régit les rapports homme-femme, les bagarres de taverne et les faits divers. Mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas à résoudre le problème de la violence. Et Jacobson n'a pas essayé de décrire de manière sophistiquée le monde futuriste. Il nous laisse imaginer, comblant de nos propres idées, quelles sont les solutions, quoi. C'est un état d'esprit, une ambiance. Moi, j'ai trouvé sur tout ça. Bon, on va aboutir à une conclusion qui est réellement terrifiante. Un point d'interrogation où la résurgence de la colère, en fait, et de l'indignation serait un début d'autre chose, une solution. Et moi, je dirais juste une phrase pour finir. C'est une phrase qui m'a pas mal plu, c'est qui est courte. Hein, c'est « Je suis qui je suis parce que je ne suis pas eux ». Je pense que...
Oui, ça revient très souvent, cette idée aussi, c'est vrai. Globalement, c'est pessimiste quand même.
C'est globalement pessimiste, mais c'est plein de points d'interrogation.
On est enfermé dans quelque chose qui est pesant par moments.
Voilà, alors
J'ai reçu d'un point de vue tout à fait réducteur, puisque je n'ai pas vu le livre, l'idée du barbier itinérant, qui m'a fait évidemment penser au dictateur.
Oui, alors il y a plein de références dans ce livre.
Ah oui, notamment les références à Moby Dick, c'est très...
Beaucoup de références du jazz, musical, oui. Bon, Wagner, alors, c'est pour ça que j'ai choisi Wagner, pour finir dans le lourd. On a pris le crépuscule des dieux. Voilà.
Thank you.
Nous allons enchaîner sur un roman qui s'appelle La mémoire en blanc d'Isabelle Colomba aux éditions Thierry Magnier. Alors, c'est un roman qui, par ses qualités littéraires et son sujet, montre combien la littérature jeunesse est un secteur vivant et intéressant où remplir nos enfants d'humanité et de culture, hein, Monica?
Oui, tout à fait. Ça, c'était un coup de cœur pour ce roman-là qui traite d'un sujet quand même très très grave. L'histoire commence le 14 septembre, à la veille de la parade qui ouvre la Biennale de la danse contemporaine à Lyon. Léonie a 20 ans et elle est là, quelque part au milieu des danseurs. Et la danse, c'est toute sa vie. Mais ce jour-là, sa vie va se fissurer et se craqueler. Elle est agressée par un inconnu. Les jours d'après, son enfance, ses années d'une adolescence heureuse, vont se fracasser comme un puzzle jeté au sol. Léonie a 20 ans, elle est française et un tueur est à ses trousses. Elle voudrait pouvoir arrêter la course effrénée qui va l'emporter et pouvoir, je cite, « tout effacer, biffer, repeindre la mémoire en blanc ». Léonie est noire de peau, adoptée depuis son plus jeune âge par une famille lyonnaise, bourgeoise, aisée, bien pensante. Et jusque-là, elle n'a jamais ressenti aucune forme de racisme à son égard. Suivie, harcelée au téléphone, poussée sur les rails du métro, Léonie va très vite comprendre que cet acharnement n'est pas le fait du hasard. Et peu à peu, elle va détricoter le fil de son histoire et découvrir le secret bien gardé de ses origines. Non, elle n'est pas née dans une clinique parisienne, ni sous X, mais au Rwanda, et dès les premiers jours du massacre des Tutsis. Non, son père n'est pas tout à fait l'industriel qu'elle croyait. Ses voyages d'affaires en Afrique feront de lui un marchand d'armes, proche de l'armée française. Pour Léonie, la révélation de sa véritable identité sera une reconstruction douloureuse. Donc voilà, à travers le destin de Léonie, Isabelle Colomba retrace l'histoire tragique de ce pays déchiré par la guerre fratricide de ces deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. Et le récit est construit d'une façon extraordinaire. La réalité et la fiction sont très habilement mêlées. Et je pense qu'elle permet bien, pour rejoindre ce que tu disais au tout début, aux jeunes lecteurs de 2015, de comprendre les rouages de ce conflit qui a fait évidemment des milliers de victimes. Et on comprend très bien à travers ce qu'elle dit aussi comment les pays européens et la France en particulier se sont retrouvés mêlée à cette affaire-là.
Ouais, elle a su très bien jouer des codes de la littérature jeunesse. C'est très bien écrit. C'est plein d'indignation, on va dire.
Oui.
On peut reprendre un peu le sujet d'auparavant. C'est un éveil c'est une prise de conscience. Et c'est très cultivé, quoi. Donc, c'est chouette. Les héros sont agréables à rencontrer, même ce père industriel, il est émouvant à sa façon. La
oui,
mère,
parce que lui-même s'est trouvé pris aussi dans des choses qu'il n'a pas maîtrisées du tout. Mmh. Et voilà. Et rien n'a été maîtrisé dans cette histoire et c'est très très. Et c'est construit comme une enquête policière en plus.
Oui, et puis le lecteur, il est vraiment tenu captif pour reconstituer les événements comme dans un puzzle. Donc pour clore cette explication, enfin cette présentation du livre, là, on va vous faire écouter le porte-bonheur qui a été chanté à Paris, qui a fait l'objet d'un disque d'ailleurs, par Ibrahim Maalouf et Oxmo Puximo. Ils ont fait un Alice au pays des merveilles à leur façon, accompagné par la maîtrise de Radio France. Et là, on va écouter la porte-bonheur.
Prétexte d'avoir oublié ses gants, le lapin la laissa chez lui et selon ses plans. Elle devait tomber sur un cadeau sans égal, au lieu de ça, Alice trébuchait ses talons. Elle passa au milieu de la surprise dans le salon, son humeur prit la taille d'un melon. Gênée, le museau collé derrière la vitre, se prépare le départ de météorite d'un lapin qui se sent comme l'âne batté. Après avoir offert ce cadeau raté, c'est la porte-bonheur jamais vue de la plupart. Fallait frapper pour entrer nulle part. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout.
Oui, c'est vraiment du lourd. Je sais pas comment je vais enchaîner avec Malicia qui est, elle, la légèreté, le symbole de la légèreté, de la fête, de la vie parisienne.
Mais ça nous fait du bien, ouais. Joël.
Oui, Misia Gordievsky. Gordievsky, c'était plus facile de dire Misia Sem ou Misia Nathanson, ça sera ses autres noms. Ou même Misia Edouard, elle en aura quatre en tout. Voilà, Misia, c'est une femme de roman. Elle a servi de modèle à Cocteau, elle a servi de modèle à Proust, elle a servi de modèle à Mirbeau, et elle a aussi servi de modèle à des peintres, et excusez du peu, Renoir, Vuillard, Bonnard, Toulouse-Lautrec. Voilà. Donc c'est une femme qui s'est, comme l'a dit un auteur, je vous le citerai pas parce que j'hésite entre deux, c'est la colonne Vendôme au milieu des Champs-Élysées. Et c'est la colonne Vendôme de la Revue Blanche. C'est Misia Nathanson, donc pour la Revue Blanche, puisque c'était la femme de Nathanson, l'un des trois créateurs de la revue, qui a su fédérer, rassembler, mettre ensemble toutes ces nouvelles générations de peinture, de littérature. Elle est née en 1872, elle est née à Saint-Pétersbourg. Déjà sa naissance est un roman, Cocteau va s'en servir dans Thomas l'Imposteur. Sa mère est enceinte, son père Cyprien est volage, il est parti tromper sa femme avec sa belle-mère et à Saint-Pétersbourg. Donc la femme est furieuse, elle file à Saint-Pétersbourg, donc elle y va un petit peu trop vite. Elle accouche de Misia et elle meurt. Donc Misia est née orpheline dès le départ. Heureusement, Cyprien trouve une belle mère extrêmement sympathique, Mathilde. Et Mathilde s'appelle Nathanson. Mathilde Nathanson, c'est la tante du futur mari de Misia. Mais personne ne le sait pour le moment. Non, c'est le hasard. Donc, Mathilda Nathanson, c'est une femme qui vient d'un milieu extrêmement cultivé, qui aime la musique, qui joue du piano. Ses deux frères sont violoncellistes. Le père est un violoncelliste de renommée internationale. Le père de Misia lui-même est de renommée internationale, il est sculpteur. Donc elle va naître et grandir dans ce milieu extrêmement intellectuel, si on peut dire, en tout cas artiste, de sensibilité très forte. Et sa belle-mère, donc Mathilda, va la mettre au piano. Et il se trouve qu'elle réussit d'une façon extraordinaire au piano, qu'elle devient quasiment une virtuose. Elle lui fait donner des cours, excusez du peu, par forêt, toutes les semaines. Elle achète une maison à Valvin. Valvin, c'est le coin où se repose Mallarmé. Donc elle va fréquenter Mallarmé. Mallarmé qui fait illustrer ses livres par Félicien Rops. Elle va rencontrer la fille de Félicien Rops, Claire, avec qui elle va sympathiser. Voilà, donc Misia, c'est cinq vies. Là, je vais raconter le quart d'une. Et à la revue Blanche, elle va ramener tous ces artistes qui vont faire de la revue ce qu'elle sera. Mais Misia, en 1900, elle rencontre Edwards. Nathanson commence à l'ennuyer parce que Nathanson s'intéresse aux petits sous, aux pains gratuits. Il s'intéresse aussi à l'affaire Dreyfus. Misia s'en désintéresse totalement. Edwards a de l'argent et elle va partir. 1900, c'est l'année où est morte André Léo. Je vous parlerai d'André Léo. C'est une femme beaucoup plus militante, beaucoup plus intéressante et qui pense davantage au monde, au peuple, à la population et à la commune plutôt.
Donc,
Misia.
Et Misia a dû rencontrer Ravel dans sa vie. Donc
Misia, évidemment, avec Gabriel Fauré faisait du piano. Elle a rencontré Ravel qui lui a dédicacé une valse, une de ses premières valses.
Jouée là maintenant par Glenn Gould. Thank you. Donc on vous a présenté aujourd'hui J de Howard Jacobson chez Kalman Levy, traduit par Pascal Loubet, La mémoire en blanc d'Isabelle Colomba aux éditions Thierry Magnier, et Joël nous a parlé de Missia. L'émission vous était présentée par Monique, Joël et Fred. À la technique, nous avons Mathias. Et à la semaine prochaine, au revoir à tous.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.